KUTT 90.3 FM.
Another reliable communication channel.
Vaccination against COVID-19 is ongoing throughout Quebec. The combined effect of two doses ensures better efficacy of the vaccine, reducing the risk of getting and transmitting the virus. You'll also stay protected for a longer period of time. Coming to your appointment for the second dose of the vaccine is a must, whatever else is on your schedule. The second dose of vaccine is essential. A message from the Gouvernement du Québec.
The following is a previously broadcast program.
You're listening to archival content from CKUT 90.3 FM.
Welcome to a special presentation. The date is September 10th, 2015. It's 2 p.m. You're tuned into Transistor Radio on CKUT 90.3 FM, a monthly show that brings you news, interviews, and stories from transgender people, activists, artists, musicians, and more, celebrating trans cultural production and trans people. This month, we are taking a break from our regular programming schedule to bring you a special presentation. As you may have heard, in August, Montreal had its first Trans Pride Festival organized by an ad hoc committee of lovely trans people, during which a roundtable took place on August 12th in collaboration with Fiert Montreal. And we're going to listen to presentations from that panel today. For a little context, at the time of this recording, trans people in Quebec have been waiting for over 20 months for the Minister of Justice, Stephanie Vallier, introduced new legislation about how to change your legal gender after a requirement for surgical intervention and forced sterilization was deemed to sound like a terrible dystopian sci-fi movie and taken off the list of requirements. So we've been waiting and waiting and waiting, and finally, earlier this week, Stephanie Vallier announced that there would be an announcement in October. She announced that there would be an announcement in October with regard to Law 35, and the legislation will likely require trans people to write a personal declaration and have a friend write a letter that confirms your seriousness about having your gender marker changed, and then you can have your gender marker changed and potentially your name. Leaving the other two proposed requirements, like time with a psychotherapist and 2 years of 24/7 lived experience in the gender of that you were, whatever. All those two requirements were deemed ridiculous. So apparently, yeah, they have a pretty chill legislation sounding, and it's surprisingly good news, but, you know, a little late for us to be super excited about. But, you know, despite this pretty good news, there are still various realities that affect trans people in Quebec that are being left behind, such as young people, immigrants, and non-binary folks. Today we're going to hear about their struggles, and we're also going to hear about how useful trans medicalism is, anyway. These are questions and topics covered by our panelists, Kai Chang Tom, who's going to talk about transmedicalism, Betty Iglesias, who's going to be talking about immigration, Raoul Nadeau, who's going to be talking about non-binary people and non-binary experience, as well as the mother-daughter pair of Annie Pullen-Sans-Fasson and Ollie Pullen are going to be talking about being a trans youth. So that's pretty awesome. The first half of the panel is in English and the second half is in French. The panel is moderated by the wonderful Gabrielle Bouchard. And without further ado, here is Kai Chang Tom.
I guess the title of my presentation gives away a little bit
my own opinion surrounding transmedicalism, but let's save the surprise, or try. Perfect. I already introduced myself, so I'm gonna skip this part, except I'm gonna go to the end and say, although I'm not personally an advocate for transmedicalism or transmedicalist views, I do understand that a lot of trans people identify with those perspectives or some aspects of them, and I want to leave room for that as well, while also critiquing the idea that transmedicalism needs to be the only way that we think about trans experiences and trans bodies. Perfect. So what is transmedicalism? Has anyone heard that term before? Who hasn't heard it before? Okay, yeah, so that's a lot of people. It's a pretty fancy word, but for just a way of thinking about transgender identity, so how transgender identity develops, what it means, and how it should be treated by society, how people become transgender, if that's something that we need to think about. And is arguably the most well-known perspective on trans experiences in the West, by which I mean sort of the global North, Canada, North America, Europe, and its descendant colonies. Basically, transmedicalism is the idea that individual variance from the gender binary is the result of a medical condition, or gender dysphoria. So simply stated, that would mean that to be transgender is to suffer from some sort of affliction, or to be experiencing a disease, or at the very least, to not be entirely healthy in the way that the medical mainstream considers normal. So you've probably heard the idea already that trans people are men born into women's bodies, or women born into men's bodies, yes? Or just this idea of being born into the wrong body, the idea of hating oneself. This comes to us from the television, from the radio. It's quite commonly used in discourse now, particularly with the upsurge of media spotlight on trans women like Caitlyn Jenner. But what most people don't know is that transmedicalism, as it is popularly used, actually comes from a lot of different theories that are separate. Some of them are psychological and come from the tradition of people like, you know, Sigmund Freud or whoever, and some are neurobiological and are a bit more complicated. They involve psychology as well as science of genetics and brain science. The interesting thing is that the theories that are the basis of transmedicalism often contradict each other, although they're used for the same reason, which is just to diagnose trans people or transgender behavior as the result of an illness or a defect. These different psychiatric theories and psychological theories are older than neurobiological ones and are the basis for a lot of the scientific prejudice around transgender experiences, and are pretty old, actually. So you see the book cover on my right, so your left of the screen, The Sissy Boy Syndrome and the Development of Homosexuality. That book is the summation of a rather famous study completed by a doctor named Richard Green, who basically said that traumatic or invalidating experiences in childhood for boys could make them act like women, or rather homosexuals. And in their most extreme form of this disease would be for men or male children to become women or want to become women. Now that probably sounds a little ridiculous to most or a lot of you, but of course that kind of thinking has stuck around. Well after the publication of the second book on the screen, The Man Who Would Be Queen, which is Michael Bailey and was published in 2003, basically a rehash of the same topic, but bringing out further some of the psychiatric medical theories about what might just be so traumatizing that a man would want to become a woman. And this is what brings us to the common medical conception around trans people today, which is the idea of sexual paraphilia, which is, again, just a fancy word for the idea that transgender identity is a mental disorder or a disease. According to a lot of theorists who are summarized by that author, Michael Bailey, there are two types of psychiatric sexual disorder that would result in someone becoming transgender or transsexual or a transvestite. These words are kind of used interchangeably in a lot of the medical community, even though, of course, they are very offensive sometimes to members of our community and have different meanings when we use them for ourselves. So the first idea of sexual paraphilia is autogynephilia. So this is the idea that a man, quote-unquote, someone who is assigned masculine at birth, is so obsessed with the idea of possessing a vulva or a vagina for reasons of sexual gratification, that they would want to become a woman, quote-unquote, surgically. Now, that's pretty offensive to a lot of you, I can imagine, as it is to me as well. But this is actually still a commonly used psychiatric criteria for the diagnosis of gender dysphoria. And then the second idea around sexual paraphilia is this idea around the failed homosexual. It may come as a surprise to some of you that homosexuality might be still considered a disease by the medical establishment of the contemporary era. But in fact, the idea is that you can be homosexual enough to just be okay and not require any medical treatment, or you might be so homosexual that you would have gender dysphoria and want to become a woman because you felt failed in one's own homosexuality and wanted to attract straight men. And so this is the other criteria around transmedicalism and gender dysphoria, the basis for a lot of psychiatrists' understanding of why someone would want to access hormone therapy or surgical intervention, sex reassignment surgery, that is. Now, it probably hasn't escaped most of you that these theories pertain only to trans women, to people who are assigned male at birth, and not really at all to people who are assigned male at birth, assigned female at birth, and display any kind of gender variance or identify differently in their gender. And that's really because trans men and trans masculine people have been mostly just ignored by the scientific medical community for the past century, which is to say all of the history of Western medicine. Perhaps the idea is that we need to come up with a medical justification for why a man would want a vagina, but all women maybe are considered to already want penises because of the idea of penis envy that comes to us from Freud's theories around phallogocentrism and the defective woman, quote-unquote, this medical idea that women are defective versions of men, which, of course, is also offensive. Now, there are some newer ideas coming out there that are a bit more widely supported by the transgender community and are a bit more confusing as well. Neurobiological theories of transmedicalism just suggest that transgender identity is one or a combination of the following three things. Genetics. So the idea that there's a mutant gene that could cause someone to be transgender, like an X-Man, that transgender identity might be congenital. So this includes the transgender gene idea, but also there's this idea that there could be a surplus of a certain kind of hormone in the womb, estrogen, for example, progesterone, or testosterone, that would affect the brain of the developing infant, causing them to be transgender from birth somehow. Of course, this relies upon the idea that boys or girls are meant to act in a certain way, naturally. And then there's the most complex idea around neurobiology, which is that transgender individuals are somehow born with brains that are shaped differently or function differently from quote-unquote normal or cisgender brains. Put most simply, there's this idea that women's brains are shaped in a particular way, and that men's brains are shaped in another way, and that it just happened to literally be swapped somehow in the body of infants. So these are interesting ideas and actually lend themselves to a lot of the political rhetoric that surrounds transgender bodies. Because if you're born that way, people have probably heard that phrase before, then what could be wrong with being transgender? But there are a few difficult realities involved with those kinds of theories, and we're going to explore those now. Now, of course, there are a lot of trans people who genuinely feel that being transgender is the result of a medical condition. And actually, if that's the way people relate to their bodies or experience gender dysphoria, then I don't want to ignore that or skip over that at all. There are a lot of transgender groups that politically advocate for the idea that transgender identity should be identified as the result of a disease, because that would mean that hormone therapy and gender reassignment surgery are legitimate things to want, and that should be covered by plans for health insurance. So if one has a legitimate disease, then why shouldn't that be covered? That sounds reasonable, right? At the same time, there are also many transgender people who reject the idea of transmedicalism. And this is for the following reasons, as well as others that I probably have missed, which is just that to some, the classification of trans identity as a disease is offensive and centers the experience of dysphoria pain, rejection, hatred of one's own body as the defining feature of transgender-ness, of being transgender. But actually, a lot of trans folks self-report that they don't feel any dysphoria at all, but are still trans, or that their dysphoria comes from society and not from innate trauma or some sort of body-brain mismatch. Also, transmedicalism upholds this idea of the gender binary and ignores non-binary identities. So transmedicalism only allows room for people who identify as men trapped in women's bodies or women trapped in men's bodies or some slightly more sophisticated versions of those ideas, but not people who identify as in between or outside those identities. Transmedicalism, unfortunately, can also create a division between legitimate and illegitimate trans people. So there's this idea that one has to feel dysphoria in order to be trans, and thus has to feel pain or a sense of disgust with one's own body in order to legitimately access things like hormone treatment or sex reassignment surgery or respect from the community even. Which is just really problematic. I don't know that I need to explain that further. Transmedicalism also ignores the historic cultural third gender roles that are assigned in a lot of non-Western or pre-colonial communities. I'm not going to go too far into this because it requires its own presentation, I think. But simply, in a lot of cultures outside the colonial West, and even within the colonial West, there are gender identities that are neither man nor woman, that don't involve being transgender or are sort of parallel to being transgender, that are sacred and are ignored by the idea of transgender identity being a medical issue. And ultimately, a lot of trans people struggle with the possibility that transmedicalism, the idea that trans people suffer from a medical condition, ultimately seeks to render us as close to normal or cisgender as possible through medical solutions. So if being transgender is a disease, the logical follow-up to that is that we need to cure it through hormone therapy or surgical intervention, thus making people as normal as possible. But some people, you know, do not want to be normal. Or don't believe that they were ever abnormal to begin with, or reject this idea of norms in general. So what are some alternatives to transmedicalism? I'll suggest a few, but probably you can think of a lot on your own. And they would just be to understand gender as a complex experience involving genetics, environment, socialization, and individual choice. We also might want to acknowledge that social attitudes and discrimination play a central role in creating the experience of dysphoria. If people tell us that our bodies are wrong, that we might experience them as such, whether or not we were inclined to on our own in the first place. We might also want to recognize the rights of individuals to define our own experiences and name our own bodies instead of having to meet some sort of medical criteria in order to identify as trans. And lastly, we might want to designate transgender healthcare, and this is a particular interest of mine, and medical transition in the same way that we designate pregnancy. There's this idea that if transgender identity isn't a disease, then we wouldn't need medical intervention at all. But there are a lot of physical and mental and spiritual conditions out there in the world that we don't consider diseases, that we do provide healthcare for, like pregnancy, that we don't consider a disease. I think if I said that was a disease, then people would laugh, right? Or at least find that ludicrous. I find the idea that transgender identity is a disease and thus requires medical intervention similarly ludicrous. Anyway, that's the end of my presentation. I want to leave you with the words of Laverne Cox, who is pictured there in the GIF in the bottom corner, which is just that trans people are more than disease, more than what we are classified as, more than prejudice and stereotype. Thanks.
You're listening to archival content from CKUT 90.3 FM.
Hello, everyone, and thank you for giving me the chance to be here tonight with you. Oh, yeah, just like, thank you. Oh, it's okay, just go back. As Gabby mentioned, I work at Aztec as outreach worker. I certainly am the peer project manager from Action Santé Travestie Transsexuelle du Québec. So we are a project from Cactus Montreal, and we work on harm reduction, addressing to a trans community, making prevention on HIV, hepatitis C, and other sexual transmitted infections. We work in the basis of solidarity instead of charity, and we have been around since 1998. Basically, the project counts in a huge diversity of trans people. Who are looking for access, basically, to health services. So tonight I'm going to explain you a little bit. This is a kind of Trans Migrants 101. And I would like to thank for this collaboration to Edward Lee, who support me in the past to truth, you know, looking for the best information that we can provide to you, because it's important to understand that one part of this precarious side of the community, of the trans community, is being racialized as a migrant in a different way of the status. It can be like no papers, it can be permanent resident, citizen, refugee claim. So first, well, I would like to go to the first positive. So basically the background to understand more about the realities, like global realities, is due to, we can't go to this part of the colonialism in some parts of the world, right? Like, there are parts in the world where still you can see communities where trans people, merely not known as trans, they exist as a possible third gender, and having a possible role and social role and responsibility. But this, there are like so reduced, like few places in the world where it may happen, right? So we are talking about like these struggles where trans people cannot be safe and not recognized even as trans. Well, are the basic factors to put the life of trans people in poverty and inaccessibility to essential services like school or health services, legal services, and most of the people who emigrate to Canada, well, they, like, we all come looking for this kind of services that probably we cannot have. So, we're still, like, face a lot of discrimination, violence, obviously transphobia, transmisogyny is involved a lot in this. In these issues. So, because the difficulty to understand the what gender identity or gender expression may be. Right, so we can go to the next. So as I was explaining you, colonialism and imperialism, they brought this traditionalist and religious rules that created this precarity. Like, let's say in some countries of Latin America, it exists still, like just as Kai Cheng was explaining earlier, like all this transmedicalism, which you can have some part of the information probably here, but in some places they don't. So even gender dysphoria is not an option in you know, like for some professionals like to work on. So people cannot be supported rightly in terms of their mental health and following up transition. The identities are more like mixed in terms of sexual, you know, like sexual identity. So we are touched by certain kinds of homophobia still, because it's complicated to perform your transition in terms of to find right doctors, to find access to right hormones, and if you want to go for surgery, it's really complicated. So these are like part of why people, they continue immigrating. So being here, when we talk about, well, mostly like the issues that we find is that are these difficulties to reach access to some services in the same way like many people who is, trans people who is in the street, they can't. Due to our papers and due to our sex mention in our identifications, like here in Quebec it's complicated still because we don't have access if we are not citizens. The idea is the difficulties to access to shelters. As well, if we want to continue a transition or start a transition here in Quebec, health systems are still setting some barriers in terms of access to to have like adequate like access to hormones. It's still like the way to be paying for professionals like access to psychologists or sexologists, psychiatrists are still like few options. And probably one of the options we have that we are covered by the RAMQ is still not the, like, it's still like only one option probably. And so the, most of the difficulties we may have to have access to most of the services as well for housing, it can be like because our paper, so people, when you have this stigma, like, okay, you come as migrant, or you, and you are a refugee claimant, or you don't may not have papers still, people don't trust, and they cannot give you easy access to housing, so it creates still, like, a precarious way to find adequate housing. Can we advance a little bit? I mean, it's a lot of information that we're still practicing. Yeah, well, this is an idea about how Immigration Canada and Quebec they can make work and how, because of the new systems, like the reality in a immigration community, like how how you can see, like according to certain. Witnessing has been happening. I would like to explain a little bit more about how the trans refugee process may happen, but these are like some points that we are having there. Can we go to the last just the resources page? Yes, there. So just in case some people will be interested to read some publications and some articles talking about experiences and about the realities about, I don't know, like trans migrants coming to Canada, you can take a look to these links, which are, well, one article is provided by the Solidarity Across Borders, which was written like 2 years ago, and as well, one article from Ashley Fortiers, who talks more about how identifications create inaccessibility or barriers to access to some services. Well, in case you may have more questions or you may require information, you can go to the AGIR website, which is agirmontreal.org. You can contact them and you can ask more in case you know someone who is looking for support or needs more information because of this. So, thank you so much.
You've been listening to the roundtable discussion from Trans Pride in August of 2015. We'll continue this program en français in just a moment after this break and a few words from CKUT 90.3 FM.
You are listening to Transistor Radio.
Transistor Radio on CKUT 90.3 FM.
On CKUT 90.3 FM, putting the rad in community radio.
You're listening to archival content from CKUT 90.3 FM.
This is a time warp. A year got late. Donc, merci à vous deux pour avoir parlé des, enfants. Je pense que c'est important. En passant, toutes les adultes trans ont été en 20 jours. Donc, pensez-y un peu aussi. On parle des oubliés ce soir. Fait, on a parlé du transmédicalisme et des gens qui ne fitent pas nécessairement dans ce modèle-là. on a parlé des immigrants et des réfugiés. On ne parle pas non plus des barrières additionnelles que ces gens-là ont envie. On parle des enfants, des mineurs aussi, qui sont aussi liés à l'État québécois présentement. Et un autre groupe aussi qui est super important de parler, c'est les personnes non-binaires dans le genre. Donc, j'invite Raoul à prendre la parole et nous parler de ce sujet-là qui est aussi super important.
Peux-tu setuper le reste pour que ça prenne tout l'écran? Je vois pas assez. Ouais. Merci. Okay. D'abord, merci tout le monde d'être présente et présent. Et je suis honoré d'avoir eu des personnes pour parler avant moi parce que vous êtes maintenant bien équipés pour comprendre les concepts que je vais articuler. D'abord, moi, mon nom, c'est Raoul Nadeau. Je suis un Rimouskois d'origine qui habite à Montréal depuis 3 ans. J'ai rédigé le blog mauvaillance.com où j'ai articulé des essais sur le vécu des personnes non-binaires dans le genre. J'ai aussi cofondé le groupe LGBTQIA+ de l'UQAM qui s'appelle La Réclame. Mais je vais aujourd'hui seulement me représenter moi-même parce que j'ai l'intention de vous partager les discussions qui ont lieu à l'intérieur de la communauté trans pour les rendre accessibles à tous et à toutes. Donc, le point de départ, voilà. Le point de départ pour ma discussion, ça va être une discussion qui a eu lieu lors des consultations parlementaires sur la loi 35 relativement au changement de mention de sexe et d'autres qualités de l'état civil pour les personnes trans et transgenres. Donc, c'était le projet de loi officiel. Le débat qui avait eu lieu, c'était à propos de la création possible de ce que je vais appeler un genre tierce, mais ça aurait été la création de quelque chose d'autre que A, que H ou F sur les cartes. La question de savoir si ça avait été, si ça aurait été un espace vide après le sexe 2 points, si ça aurait été un genre X, si ça aurait été écrit en gros transgenre, ça c'est pas une question qui a été réglée parce que le point a été rapidement mis de côté. Donc, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est aussi de la réaction qu'il y avait eu généralement parmi les activistes trans, notamment les femmes trans et les hommes trans. Lors de ma présentation, quand je dis hommes trans et femmes trans, je fais référence aux personnes qui ne s'identifient pas à l'étiquette non-binaire en même temps, parce que ça peut être possible aussi. Donc, les femmes trans et hommes trans ont appuyé que ça pouvait être une cible sur le front des personnes d'avoir une apposition différente que H ou F, parce que ça révélerait à tout le monde, par exemple dans le milieu médical ou scolaire, que la personne vit une différence, que la personne est probablement trans. Aussi, ça aurait été probablement mieux avisé, au lieu de proposer une troisième mention de genre difficile à appliquer, ça aurait été peut-être mieux de tout simplement retirer la mention de sexe sur les documents. Donc, avant de pouvoir plonger dans la discussion à propos de la perspective non-binaire sur la question, je vais essayer de faire une grosse parenthèse pour définir un peu la non-binarité et tout ce que ça peut inclure. Une fois que la parenthèse est terminée, je vais vous l'annoncer. On va retourner à la question de départ par rapport à la mention de genre tierce. Donc, non-binaire, tout ce que ça peut inclure. La première question, c'est le trait d'union par rapport à non-binaire, quand on parle d'une personne non-binaire dans le genre. Ça peut paraître être seulement un détail, mais les deux écritures sont très présentes. Le seul argument qui les différencie un peu, je l'avais amené, c'était que sans trait d'union, on peut souligner que c'est un adjectif, par exemple une personne non-binaire, au lieu de l'utiliser comme un nom, les non-binaires. C'est un argument qui a été soutenu par d'autres personnes non-binaires, mais en vérité, il n'y a pas de consensus social, donc vous allez voir les deux utilisations et les deux applications sans nécessairement qu'il y ait une signification particulière pour les différencier. Ensuite, non-binaire, ça a été aussi utilisé comme un mot fourre-tout pour mettre plusieurs identités qui existent hors de homme et hors de femme. Ça pourrait aussi inclure ce qu'on appelle des identités culturelles, plutôt ce que j'appelle des identités culturelles. Je ne sais pas si c'est identifié comme tel officiellement en sociologie ou quelque chose d'autre. Donc, par exemple, dans certaines tribus autochtones, il pourrait y avoir des personnes qui s'identifient comme « two-spirits ». Et certaines autres personnes, surtout des Québécois et Québécoises blanches non autochtones, ont apposé l'étiquette non-binaire pour ce genre d'identité-là. C'est un peu problématique parce qu'il faut demander le consentement des gens avant d'apposer l'étiquette non-binaire. Sinon, on reproduit un schéma un peu colonialiste. au lieu d'apposer les rôles de genre homme ou femme venant de l'esprit colonialiste européen et blanc québécois, maintenant on impose une identification au contraire de la position de genre homme ou femme. Donc, c'est mieux demander le consentement et de ne pas utiliser non-binaire comme un fourre-tout pour mettre trop d'identité, selon moi. Finalement, il y a aussi la possibilité qu'un non-binaire soit une identité en elle-même. Quelqu'un va dire « je suis un homme », quelqu'un va dire « je suis une femme ». Moi, je dis par exemple « je suis une personne non-binaire dans le genre ». C'est aussi possible que non-binaire dans le genre s'ajoute à d'autres identités de genre. On pourrait dire par exemple « je suis une femme et je m'identifie aussi comme non-binaire dans le genre. Je suis un homme et je m'identifie aussi comme non-binaire dans le genre. » Dans ces cas-ci, non-binaire dans le genre, ça peut marquer un sentiment de distanciation par rapport à ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Ça peut être un sentiment de distanciation qui est constant. Par exemple, j'ai l'impression que tu m'identifies comme homme, mais il y a aussi une espèce de distanciation quelque part en moi qui reste tout le temps. Ça peut être aussi partiel et ça peut être aussi sporadique, ça peut aller et venir. Parfois, j'ai vraiment le sentiment que je m'identifie comme un homme, que je m'identifie comme une femme, mais d'autres fois, c'est quelque chose que je ressens comme moins absolu et donc je suis moins certaine ou certain. Là, j'utilise le « je », mais pour moi, je m'identifie uniquement comme non-binaire dans le genre. Donc, je récapitule rapidement. C'est possible qu'on parle de non-binaire, que ça soit un mot fourre-tout, utilisé à tort ou à raison. C'est possible aussi que ça soit pour exprimer un sentiment de distance par rapport à l'identification homme ou femme, ou que ça soit utilisé comme un autre alternative que homme ou que femme. Finalement, il y a aussi des gens qui utilisent trans à l'identification « je suis non-binaire dans le genre ». Ça pourrait être justifié, par exemple, à cause de la proximité de vécu d'oppression, mais aussi de revendications sociales, quand on a une identification de genre qui ne correspond pas à ce qui a été décidé par les médecins ou le corps médical et ce qui a été entretenu par la famille et les structures sociales. On pourrait historiquement essayer de jouer à est-ce que finalement le mouvement trans a été débuté par des femmes trans et des hommes trans ou par des personnes non-binaires dans le genre. Mais la vérité, c'est que c'est assez dur de jouer à ce jeu-là historiquement, puisque beaucoup de mots qu'on utilise aujourd'hui pour exprimer nos vécus et nos rassemblements n'étaient pas accessibles lors des premières revendications sociales liées à un rejet un rejet de l'identification qui a été apposée à la naissance par rapport au genre. Il y a des points morts que je laisse volontairement dans mes lectures de définition. Gorgée d'eau. Donc, les orientations sexuelles, est-ce qu'elles sont annulées lorsqu'une personne s'identifie, par exemple, uniquement comme non-binaire? Est-ce qu'on peut être non-binaire et homosexuel, tandis que homosexuel veut dire un homme attiré par un homme? Est-ce qu'on peut être non-binaire et lesbienne? Les orientations sexuelles peuvent être chargées de significations qui ne sont pas seulement reliées au genre et qui sont liées à des manières de se rassembler, à des revendications sociales ou à des situations d'oppression. Donc, si on peut être homosexuel ou lesbienne et non-binaire, c'est une question à laquelle je ne chercherai pas à répondre aujourd'hui. Autre point mort, la différence de vécu au sein des personnes non-binaires dans le genre. Par exemple, si la personne est non-binaire dans le genre et s'identifie comme femme ou comme homme, est-ce qu'elle a un avantage ou désavantage par rapport à une personne non-binaire stricte? Je ne m'intéresserai pas à ça non plus. La différence entre la ville et la région, ou notamment la différence à l'accès aux mots pour s'identifier comme non-binaire ou non. Est-ce que la personne est non-binaire avant de savoir que le mot existe? Je m'y intéresserai pas non plus. Je m'y intéresse pas non plus à la différence de langage, c'est-à-dire si les personnes qui parlent français une langue très genrée vivent différemment la non-binarité que les personnes qui parlent une langue moins genrée, par exemple l'anglais. Fin de la parenthèse. Maintenant, je vais discuter de rendre l'assignation possible, la question posée par le gouvernement, rendre une assignation tierce possible, est-ce que ça aurait été possible ou non, avantageux ou non? Je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, j'ai peut-être sauté certaines parties. Oui, un a priori, on s'entend que si la question a été posée, il faut naturellement que la position soit consentie par la personne en elle-même. Il ne faut pas que ça soit obligatoire automatiquement si tu es trans, tu aurais une assignation de genre tierce. Il ne faudrait pas non plus que ça soit vu comme une fin en soi. Ça pourrait être une mesure temporaire en attendant que l'assignation de genre soit complètement effacée des papiers. Donc, selon ces a priori-là, quel genre de réflexion on pourrait avoir? Cette situation, il y a des inquiétudes par rapport à ce que les personnes non-binaires, en cherchant à s'affirmer, nuisent aux avancées sociales, par exemple. Si on doit s'arrêter à s'occuper d'une identification de genre tierce, Est-ce qu'on va perdre du temps pour répondre aux besoins urgents des femmes trans et des hommes trans qui ont besoin de changer leurs papiers rapidement? Il y a aussi l'inquiétude pour que les personnes non-binaires soient davantage exposées à la discrimination en s'affichant sur leurs papiers. Mais ça ignore un peu la possibilité qu'une personne non-binaire puisse désirer s'affirmer en tant que telle. Ce qui est possible, il y a des personnes non-binaires qui sont très fières de l'être. Bon, une anecdote d'Iran, on parle de la question des papiers, une question du gouvernement sur une assignation de genre tierce qui a été abandonnée, mais réfléchir à cette question-là ensemble, ça permet de donner des outils pour, par exemple, penser à d'autres situations impliquant des personnes non-binaires. Lors des dernières grèves étudiantes, pendant les assemblées générales, il y avait une file d'attente pour les hommes et une file d'attente pour les femmes. Lorsqu'on discutait de peut-être créer une troisième file d'attente pour les personnes qui s'identifient ni comme homme ni comme femme, le même genre d'inquiétude surgit, c'est-à-dire l'inquiétude que l'affirmation des non-binaires pourrait nuire aux efforts des femmes qui veulent se rendre visibles dans un milieu hostile à la présence des femmes, et aussi que les personnes non-binaires ne souhaiteraient jamais utiliser cette file d'attente-là parce que de toute façon, ça serait les exposer à de la discrimination. Donc, finalement, est-ce que les personnes non-binaires dans le genre auraient à gagner avec une assignation à genre tierce, par exemple un X au lieu de H ou de F sur les cartes d'identité? Je crois que peut-être qu'on en serait abouti à la même réalisation qu'on a fait en ce moment, que ça serait difficile à appliquer et que ça serait mieux de militer pour avoir l'enlèvement des assignations de genre et temporairement demander à ce que les gens hommes et ce que les gens femmes soient le plus facilement possible changeables. Mais si on aurait abouti à la même réponse que ce que je viens de dire ou à une réponse différente, c'est une partie, mais ce qui est certain, c'est qu'on aurait dû créer des lieux et des moments pour que les personnes non-binaires puissent discuter entre elles. Si la réponse finale reste la même, tant mieux, mais la compréhension de la situation en aurait eu seulement à gagner. Merci beaucoup.
You're listening to archival content from CKUT 90.3 FM.
Le sujet est encore plus difficile parce que les réalités du transmédicalisme, on les connaît relativement bien, on les connaît plus. Mais lorsqu'on inclut toute la question de l'immigration, la question de réfugiés, la question des raisons qui peuvent amener les gens à venir ici, puis les barrières additionnelles, ça rend le sujet encore plus difficile. Donc, chapeau Betty pour avoir essayé de faire un résumé là, relativement certain de tout ça. Puis oui, je vous invite aussi à aller voir ces ressources-là. Elles sont super importantes, super intéressantes. Ceux qui ont des téléphones avec des portraits, ben, ils vont aller voir des choses après. le prochain duo qui va présenter l'autre section de cette présentation-là, c'est... Annie et Ali qui vont dans le Canada qui vont nous présenter les affaires Pine and Coon. Donc Annie qui a.
Bon, alors je suis Annie.
Merci. Moi je suis Alice.
Bon. OK, alors on va faire encore quelque chose de vraiment rapide. 10 minutes, c'est pas énorme. J'ai quelques affiliations, je veux juste régler quelque chose. Je suis affiliée à l'Université de Montréal, je suis professeure. Aujourd'hui, je vais parler un peu des recherches, donc ça va vraiment être plus ma perspective. Je suis aussi vice-présidente d'Enfants transgenres Canada, mais je ne représente pas l'organisme ce soir. Donc, je voulais juste clarifier un petit peu les perspectives. Puis, je suis aussi la maman d'Oli, fait que ben, c'est clair que je ne peux pas mettre cette perspective-là de côté. Alors, je vais faire ça. Puis, ça va être comme un speed dating, parce que je vais aller vraiment vite. Je vais laisser plus de temps à Oli, parce que c'est elle qui a bien des belles choses à dire. Mais en fait, ce que je voulais dire... C'est beau. OK. Alors, on m'a demandé de préparer quelque chose sur les enfants trans. Je voulais juste faire une petite introduction en disant que c'est une population grandissante, de plus en plus visible, dans les médias et dans les discours politiques, bien sûr, mais dont la plupart des besoins demeurent à ce jour non comblés. Je pense qu'il n'y a personne qui va s'obstiner avec moi là-dessus. Ça va aller rapidement. Alors, qui sont-ils? Deux, trois petites choses. Premièrement, aujourd'hui, ma présentation vise les mineurs. Là, je me dis, est-ce que je parle d'enfants? Est-ce que je parle de jeunes? 17 ans, ils ne veulent plus se faire appeler enfants. 3 ans, on ne peut pas parler de jeunes trop. Donc, je vais parler des mineurs. Je vais changer les termes là, ça va passer à travers la présentation, mais ce que je veux dire par enfant trans ou jeune trans, c'est une personne qui se perçoit, s'identifie ou s'exprime autrement que ce qui est socialement attendu pour le sexe qui a été assigné à la naissance. Okay, donc, de façon générale, là, on va parler de ces jeunes-là, c'est une auto-identification. Donc, c'est des jeunes qui s'auto-identifient. On parle que ces jeunes-là vont réaliser vers l'âge de 10 ans que le sexe assigné à la naissance n'est pas concordant avec leur identité de genre. Ça, c'est une statistique de recherche. Quand vous allez voir des petits numéros, là, c'est parce qu'il y a des références à la fin. Ça, c'est une moyenne, en fait, parce que ça irait de 6 à 15 ans. Mais bon, en moyenne 10 ans, ils seraient nombreux, quoique le nombre exact, c'est difficile à définir, et je me demande en fait si c'est pertinent, mais c'est difficile à définir parce que beaucoup d'enfants trans sont invisibles. Ils sont invisibles pourquoi? Parce qu'ils subissent beaucoup de pression pour ne pas émerger dans leur enfance. Donc, il y a beaucoup plus d'enfants trans probablement que ce qu'on voit. Et comme une maman du groupe à l'enfance trans genre nous disait, c'est comme des bébés pigeons. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu des bébés pigeons dans la vie. Non, moi non plus. Mais il doit bien en avoir. Considérant la population pigeon mondiale. On va avoir des enfants qui vont entreprendre une transition sociale, c'est-à-dire changer l'utilisation de prénoms, l'utilisation de noms. On va avoir des enfants qui vont commencer aussi à avoir une transition médicale, donc bloqueur d'hormones, hormonothérapie, parfois un peu plus tard des chirurgies. Et il va avoir aussi des transitions sociales, médicales et légales. Oui, excusez-moi, j'ai oublié légales parce qu'on peut pas vraiment faire beaucoup quand on est mineur au Québec. Mais qu'est-ce qu'on entend par transition légale? C'est un changement de nom à l'état civil. On peut pas faire autre chose pour le moment et je vais y revenir plus tard. Et ce que je veux dire, et pourquoi que les gens font des transitions ou en font pas, c'est souvent par des choix. C'est qu'ils le veulent, mais aussi il y a des gens qui vont vivre énormément d'obstacles, ce qui va les empêcher de faire certaines transitions. Mais la transition n'est pas nécessaire pour s'auto-identifier comme trans, bien entendu. Je veux aussi souligner que différentes conditions de vie vont amener différents obstacles et que c'est vraiment difficile d'identifier des parcours parce que tous les enfants vont avoir de différents parcours et dépendamment si on vient d'un statut socio-économique X, ben ça va peut-être amener des facteurs de résilience, des facteurs de ça va être un petit peu plus difficile pour certains. Fait que je pense qu'il faut vraiment se souvenir de ça. Les enfants qui sont racisés, niveau socio-économique, des gens qui ont des handicaps quelconques. Donc, il faut vraiment voir les parcours d'enfants trans comme étant très, très, très différents. OK? Bon, là, je vais y aller vraiment en rafale. Qu'est-ce qu'on connaît de ces parcours-là? Tu peux changer? Ah, voilà, merci. Qu'est-ce qu'on connaît de ces parcours-là? C'est qu'on sait que c'est une population, de façon générale, qui est très, très vulnérable, font face à des difficultés disproportionnées face aux autres jeunes de leur âge, sont beaucoup plus susceptibles de vivre des situations de discrimination, harcèlement, violence dans toutes les sphères de leur vie et de plus en plus la cyber-intimidation. Sont sous-représentés chez les populations itinérantes, quand ils grandissent, sont plus à risque de développer des dépendances à l'alcool, à la drogue. Tu peux y aller. Non, c'est parfait. On le vit dans nos pensées. Se sentent pas en sécurité à l'école, souvent de la détresse psychologique, sont plus à risque de suicider. J'ai mis une statistique ici qui vient de la recherche TransPulse en Ontario. En fait, sont 7 fois plus à risque de suicider que les jeunes cisgenres. Et 36% des jeunes qui ont fait une tentative de suicide dans les 43% qui étaient considérés comme des jeunes, c'est ça, ils l'ont fait avant de l'âge de 15 ans. Donc, c'est vraiment des statistiques qui sont dérangeantes. Vous voyez, quand je parle de jeunes qui sont vulnérables, ce que j'entends par ici. Et en plus de ça, ils sont souvent victimes de diverses formes d'abus durant l'enfance. Bon, pourquoi? Peut-être parce que les parents ont de la difficulté à accepter qu'est-ce qui se passe, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, beaucoup, beaucoup d'abus chez les jeunes trans. Alors, je vais passer la parole à Oli qui va nous parler un petit peu plus de la réalité. Moi, j'étais plus dans les données de recherche.
Bonjour, je m'appelle Annie Collin, j'ai 12 ans et j'ai juste terminé ma sixième comme vous le savez. C'est une petite finissante. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du contexte dans lequel moi et d'autres trans on vit. De manière générale, je pourrais dire que ma vie est belle, parce que moi je suis chanteuse. Et mes nouveaux amis, ma communauté embrasse la diversité. Par contre, c'est pas toujours facile car au Québec, on ne nous reconnaît pas ensemble, les trans. Laissez-moi illustrer. À chaque fois que moi je me retrouve dans un endroit où je dois sortir une carte d'identité, je stresse corps. Je ne sais jamais ce que les gens vont dire. Peut-être qu'ils vont être méchants, gentils, je ne sais pas. Qu'il s'agisse d'un rendez-vous à l'hôpital que je dois présenter ma carte d'assurance maladie ou alors le port que je dois présenter mon passeport canadien, je suis forcée à faire des coming out encore. À chaque fois, je dois me préparer à expliquer à des inconnus pourquoi j'ai l'air d'utiliser les cartes de quelqu'un d'autre. C'est vraiment stressant des fois. Étant donné que je ne peux pas changer la mention de sexe sur ma carte ou mon certificat de naissance, je suis forcée à vivre des situations de discrimination et des affaires de même. Pourtant, ailleurs, comme au Canada, on a bien compris la situation. Personnellement, j'ai la double nationalité canadienne-anglaise. Puis là-bas, en Angleterre, ils ont déjà mis un F sur ma carte d'identité et ma carte de voyage. Ouais, je suis contente de ça. Pour moi, recevoir ce passeport, c'est une marque de reconnaissance. Une reconnaissance de qui je suis et qui me permet de vivre et m'exprimer comme je suis. Mais c'est encore compliqué quand on vit au Québec. Et aucune de mes cartes d'identité n'indique le bon genre. Pourtant, c'est tellement plus simple. Il est aussi important de comprendre que, pour ma part, mes parents sont toujours là pour moi. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Plusieurs jeunes doivent habiter tout seuls. D'autres vont se cacher car leur famille refuse de les reconnaître et les adopter. D'autres vivent dans des environnements pas très faciles. Mais être reconnu par le gouvernement serait un bon départ. Quand est-ce possible de vivre avec les mauvaises pièces d'identité jusqu'à 18 ans, c'est très long. Et c'est discriminatoire, exactement. Et parfois même dangereux, dépendant de ta bête. C'est pour cela que nous devons continuer à conscientiser.
On écrit ensemble, hein?
Et convaincre les élus au gouvernement que les jeunes le désirent devraient pouvoir obtenir un changement de sexe, mention de sexe, avant l'âge de la majorité, comme c'est possible à d'autres ailleurs au Canada. On parle ici depuis au moins 2013, mais rien n'a changé pour nous. Merci de poursuivre cette lutte avec nous. Merci de m'avoir écouté.
OK. On va pouvoir poser des questions plus tard, mais je veux juste comme rentrer ça un peu dans une compréhension un petit peu plus théorique, je pense, mais je pense que c'est important d'en parler. Comment on peut faciliter l'épanouissement des enfants trans? Moi, j'aime bien faire appel à une éthique qui s'appelle l'éthique de la reconnaissance, qui est développée par un monsieur qui s'appelle Honnête. Mais bon, voilà, je vais me baser un petit peu sur ces trucs aujourd'hui, parce que ce monsieur-là nous dit que la reconnaissance est au cœur de la vie sociale et ça affecte la capacité d'un individu à s'autoréaliser. Okay? Et donc, il y a trois types de reconnaissance qu'il faut viser. Il y a la reconnaissance affective, sociale et juridique. Et on dit aussi qu'un manquement à un de ces paliers de reconnaissance-là va apporter des conditions de mépris. Je pense que vous me suivez ici. Alors, regardons un petit peu ces trois types de reconnaissance. J'ai broché mes feuilles dans le mauvais sens. Okay. Alors, la reconnaissance affective, merci. La reconnaissance affective, elle s'atteint à travers l'amour, le soutien et l'acceptation parentale. Okay, quand on regarde les écrits d'Honnête, c'est vraiment l'amour, c'est le vecteur de la reconnaissance affective. Et quand on regarde, quand on fait un lien avec les recherches, on se rend compte que les familles, le soutien parental est fort, le taux de dépression chez les jeunes, les idéations suicidaires et le passage à l'acte sont significativement moins élevés que dans les familles où il n'y a pas de soutien. En fait, c'est une statistique, on a des statistiques pour soutenir ce genre d'énoncé-là. Si je fais encore appel à la recherche de TransFalse en Ontario, c'était auprès de 433 individus. Quand on a toutes fait les statistiques et on a compris qu'est-ce qui se passait, le taux de suicide diminuait 93% chez les familles qui ont un soutien fort. Okay? Donc, on peut voir vraiment que la reconnaissance affective, c'est central à la vie des jeunes. Mais, l'acceptation des enfants... de l'enfant dans son identité authentique, c'est pas la norme. OK? Okay? Et quand ça se produit à l'intérieur de la famille, ça va souvent, mais la portée à l'extérieur n'est pas toujours aussi claire. Pourquoi? Parce qu'il nous manque une reconnaissance au niveau social. C'est notre deuxième. Voilà. Alors, ça s'imbrique la reconnaissance affective, ça s'imbrique dans la reconnaissance sociale, si vous me suivez. Les jeunes trans, de manière générale, ne sont pas reconnus dans plusieurs sphères de leur vie, ce qui contribue à rendre plus difficile l'atteinte du premier niveau de reconnaissance. Parce que clairement, si tu soutiens un enfant et que tu sors et tu fais dire des bêtises, ça va venir vraiment affecter. Et si tu te rends dans le milieu scolaire et tu essaies de soutenir ton enfant et l'école te dit des bêtises, encore une fois, ça ne l'aidera pas et ça peut venir endommager en fait le soutien affectif qu'on donne à la maison. Donc, c'est vraiment imbriqué ces deux trucs-là. Et quand on parle de non-reconnaissance sociale, on parle de non-reconnaissance sociale qui est maintenue par les normes. Donc, les normes, ça peut être tout ce qu'on entend par rapport au mode binaire, pourquoi les femmes devraient se comporter d'une façon ou l'autre, et donc tout ça, mais aussi ce qui est produit à travers les institutions. Les institutions médicales, ce qu'on a parlé un petit peu plus tôt, je pense que c'est très, très pertinent dans notre reconnaissance sociale ici, mais aussi toutes sortes d'institutions, dont les institutions gouvernementales. Et finalement, on a la reconnaissance juridique, et en fait, on voulait parler de reconnaissance juridique ici. C'est le troisième palier nécessairement, et cette reconnaissance juridique-là va venir à travers des changements de loi qui vont reconnaître les jeunes trans. La situation rapidement ici, c'est qu'on est toujours en attente. Au niveau canadien, on avait un projet de loi qui allait de bon train, le projet de loi 279, qui ne touchait pas seulement les enfants, bien évidemment, mais toutes les personnes trans. Et donc, ce projet de loi, c'était de projeter de la protection au niveau de la Charte canadienne. C'est mort au feuilleton avec les élections qui viennent d'être déclenchées. Changement de mention de sexe chez les mineurs, c'est déjà permis à travers le Canada. J'ai nommé quelques places, si vous pouvez les lire vous-même, mais Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Alberta, le Manitoba, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse. Partout ces endroits-là, c'est soit dans le processus ou soit c'est déjà passé. Les jeunes trans, les mineurs peuvent faire un changement de mention de sexe, mais pas au Québec. Aussi, un autre élément que je voulais mentionner, c'est que la thérapie de conversion est maintenant interdite en Ontario depuis le juin 2015. Encore une fois, au Québec, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer. Et finalement, je n'ai pas la bonne page ici. Ouais, voilà. Alors, je pense que vous voyez qu'il y a quand même, encore une fois, des grands manquements au niveau juridique. Alors, en conclusion, comme vous comprenez, ces trois paliers-là doivent être comblés si on veut empêcher les situations de mépris chez les jeunes trans. Et c'est vraiment, d'après moi, en commençant à remédier au mépris qu'on trouve au niveau social et juridique, qu'on va pouvoir faire un impact qui va même se retrouver au niveau familial. C'est bon?
So that was the roundtable discussion from Trans Pride. Thanks for listening. We hope you enjoyed it. Thanks to all the presenters and Trans Pride for organizing such a great event. The panel was recorded and cleaned up a bit by Ray Dooley. The music in today's episode was a local artist, Jane Harms. Transistor Radio will return to our regular programming on October 8th at 2 p.m. here on CKUT 90.3 FM. If you're interested in hearing our older shows, we have 38 lovely episodes archived on our blog, transistor.tumblr.com. That's TRANZISTER.TUMBLR.com. Well, thanks for listening. We'll see you next month.
D'analyse théorique, le but d'attaque contre le système répressif tel qu'il fonctionne en France, vraisemblablement d'ailleurs dans d'autres pays, mais contre-attaque, nous la faisons porter évidemment sur ce qui nous entoure.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
Your things here, they stare at me like